Radio Prague, les informations.
Bonjour, les soldats du 6e contingent de l'armée tchèque se sont envolés pour une nouvelle mission de reconstruction en Afghanistan. Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage au cours du deuxième trimestre 2007 a été le plus faible de ces 9 dernières années en Tchéquie. Et enfin en football, le Sparta de Prague aura pour adversaire les Anglais d'Arsenal au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. La majorité des 91 soldats qui composent le 6e contingent de l'armée tchèque se sont envolés vendredi matin pour une mission de reconstruction en Afghanistan. Les militaires tchèques effectueront leur mission longue de 4 mois dans la ville de Faizabad. Ils participeront notamment à la reconstruction d'écoles, d'hôpitaux, de centres de soins et collaboreront avec l'armée et la police afghane. Des soldats tchèques se trouvent également dans la capitale Kaboul où se trouve un hôpital de campagne. Selon la méthode employée par l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage en République tchèque a été de 5,3% au cours du deuxième trimestre de cette année, soit une baisse de 1,8 point par rapport à la même période l'année dernière. Selon les calculs réalisés par l'agence de l'ONU, il s'agit du taux de chômage le plus faible de ces 9 dernières années. Rappelons que selon la méthode employée par le ministère tchèque du Travail et des Affaires Sociales, le taux de chômage était de 6,6% pour le deuxième trimestre 2007. Les membres de l'initiative Non au radar et les maires de certaines communes environnantes du terrain militaire de Brdy, où pourrait être installé un radar dans le cadre du système de défense antimissile américain en Europe, ont critiqué vendredi Tomáš Klvania, porte-parole gouvernementale pour la défense antimissile, pour la manière dont les Tchèques étaient informés du projet américain. Selon les représentants de l'initiative et les maires, le porte-parole mène uniquement une campagne de propagande en faveur de l'implantation et n'explique pas quelles conséquences aura le fonctionnement du radar sur l'environnement et la santé des habitants. Tomáš Klvania a réagi à ces critiques en affirmant que le gouvernement donnait suffisamment d'informations et qu'une vaste campagne allant dans ce sens sera lancée au mois de septembre. Le Sparta de Prague affrontera Arsenal au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions de football, tandis que le Slavia de Prague, s'il élimine les Slovaques de Žilina au deuxième tour, sera opposé aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Le tirage au sort du tour qualificatif pour la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs a été effectué vendredi midi à Nyon, en Suisse. Le Sparta, sacré champion de République tchèque la saison dernière, recevra d'abord le club londonien dans lequel évolue Tomáš Rosický, formé au Sparta le 14 août à Prague, avant de se déplacer deux semaines plus tard pour le match retour en Angleterre. Quant au Slavia, avant de penser à l'Ajax, il devra d'abord éliminer Žilina lors du match retour du deuxième tour préliminaire qui se disputera mercredi prochain à Prague. À l'aller en Slovaquie, la nouvelle équipe de Vladimír Šmicer avait obtenu un match nul 0-0. Météo, après une journée de vendredi plutôt nuageuse, le temps reste variable samedi, une tendance qui devrait se confirmer dimanche, le soleil étant plus présent en début de semaine prochaine. Les températures varient ce samedi entre 8 et 12 degrés pour les minimales et entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Comme à l'accoutumée, nous sommes au rendez-vous pour notre magazine d'actualité tchèque qui débutera aujourd'hui par l'état des ponts en Tchéquie, suite à l'effondrement tragique d'un pont aux États-Unis. Ensuite, Guillaume Narguet vous présentera une nouvelle sorte de taxi à Prague, un service qui jouit d'une mauvaise réputation. Anna Kubišta, elle, s'est rendue à l'école d'été des langues slaves à Olomouc et Václav Richter nous présentera le directeur du Théâtre National de Brno. Nous vous souhaitons de passer de très agréables moments en notre compagnie. Les médias tchèques se sont naturellement très intéressés à la tragédie qui a touché le Minnesota aux États-Unis, où un grand pont s'est effondré. Cet accident a provoqué la question, est-ce que les ponts en République tchèque sont en bon état et peut-on y circuler en toute sécurité? Comme le titre le quotidien national Pravo en seconde page, la réponse est non. Les spécialistes tirent le signal d'alarme et affirment que l'état des ponts tchèques est critique. D'après eux, 2000 ponts tchèques au minimum, dans les 7% du total, ont besoin de réparation ou d'une reconstruction urgente. Il faut préciser que sur le nombre total de 16 700 ponts en Tchéquie, seulement 4200 sont entretenus par l'État, concrètement par la direction des routes et autoroutes. Les ponts des routes secondaires sont du ressort des municipalités. Le problème est que la direction des routes et autoroutes ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour la reconstruction des ponts en mauvais état. Le porte-parole de cette entreprise publique, Jiří Ožení, précise le montant des frais qu'il faudrait engager. Pour que les 7% de ponts en mauvais état répondent aux normes, il faudrait investir pendant les 5 années à venir 2,2 milliards de couronnes par an. Ce ne sont que nos estimations, mais sur cette période de 5 ans, c'est une somme énorme de 11 milliards de couronnes. Il y a 2 ans déjà, les spécialistes dans la construction des ponts ont envoyé une pétition à la commission de la Chambre des députés. Ils y mettaient en garde contre le très mauvais état d'un grand nombre de ponts, aussi bien routiers que de chemins de fer. D'après le spécialiste František Menšík, la réponse a été qu'il fallait résoudre le problème d'une manière systématique. Cette année, en mars, ces mêmes spécialistes se sont adressés aux deux chambres du Parlement et au gouvernement, en posant la question urgente de la réalisation d'une solution systématique. Ils n'ont pas encore reçu de réponse. Cette dernière est en cours d'élaboration au ministère des Transports. Une tragédie semblable à celle qui s'est produite aux États-Unis peut-elle avoir lieu en Tchéquie? D'après Václav Mark, de l'Ordre des ingénieurs assermentés, elle est peu probable sur les ponts des autoroutes et des nationales. Par contre, sur les routes secondaires, bon nombre de ponts menacent de s'écrouler sous le poids de gros camions ou même d'un autobus. Mais comme nous l'avons dit, dans leur cas, l'entretien et les réparations éventuelles doivent être financés par les municipalités, tout comme les routes elles-mêmes. La solution proposée par le ministère des Transports de créer un fonds spécial pour l'entretien des ponts ne les concernerait donc pas. La situation est la même en ce qui concerne les ponts de chemin de fer, souvent dans un état catastrophique. Cette année, un pont d'une route secondaire dans la région de Pardubice, à l'est de Prague, s'est effondré 2 fois sous le poids des véhicules trop lourds qui l'empruntaient, en dépit d'un panneau de limitation du poids à 3,5 tonnes. Les ponts de Prague ne sont pas épargnés. Le pont Stefanik est en reconstruction et 2 autres ponts en mauvais état le seront dans quelques temps. Naturellement, la municipalité de Prague dispose d'un budget plus confortable que les villes de province. La ville de Prague poursuit sa lutte contre les chauffeurs de taxi dont la réputation d'escroc a depuis longtemps franchi les frontières de la République tchèque. Depuis mardi, de nouveaux panneaux surmontés d'un pouce levé et de l'inscription en anglais « Fair Place », « Place honnête » sont ainsi installés à 49 arrêts de taxi où se trouve également un employé de la mairie. Leur objectif, faire savoir aux touristes qu'ils peuvent monter dans le taxi qui s'arrêtera sans risque de se faire arnaquer. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Selon les contrôles réalisés par les équipes de la mairie, le nombre de chauffeurs de taxi arnaquant leurs clients est en baisse. Tandis qu'une course sur 3 était encore surtaxée en 2002, ce chiffre serait tombé à moins de 8% au cours du premier semestre de cette année. Mais si tout n'est pas encore parfait, les efforts entrepris dans la lutte contre ce qui est parfois aussi appelé la mafia des taxis pragois semblent donc porter leurs fruits. Très couru par les touristes du monde entier, Prague souffre d'un certain nombre de maux qui nuisent à l'image de marque de la ville. Et parmi les principaux problèmes dont se plaignent régulièrement les étrangers, les taxis occupent une place de choix. C'est pourquoi 100 000 brochures en 7 langues ont été imprimées afin non seulement d'informer les touristes sur les mesures de précaution à prendre et sur le montant des prix fixés officiellement par la municipalité, mais aussi de les conseiller à prendre les taxis aux arrêts surmontés de l'inscription « Fair Place ». Adjoint au maire de Prague, Rudolf Blažek, explique plus en détail quels sont les symboles choisis.
Taxi Fair Place est označení jednak slovní, že to místo je v pořádku.
Fair Place est une inscription en anglais qui signifie que l'endroit pour monter dans un taxi est le bon, que c'est une place honnête en quelque sorte. C'est la première chose. La seconde est qu'il y a également un pouce levé juste à côté de l'indication. Il s'agit d'un signe international qui signifie OK, que tout le monde comprend, et ce pour que l'information soit bien claire.
To je OK, to je mezinárodně uznávaná označení, které každý pochopí.
À terme, 121 arrêts de taxi devraient être équipés de la sorte dans toute la ville, seuls certains chauffeurs étant autorisés à s'y arrêter. Un nouveau service qui devrait garantir aux touristes qu'ils ne paieront pas plus de 40 couronnes pour monter dans le taxi, 28 couronnes par kilomètre parcouru et 6 couronnes par minute d'attente.
Aujourd'hui, c'est avec Rémi Fédière que nous retrouvons l'école d'été des langues slaves à Olomouc. Étudiant en histoire de 19 ans, il est littéralement tombé amoureux de la langue tchèque et a décidé de pousser plus loin son apprentissage. Il a par ailleurs confirmé la forte présence de Français cette année à Olomouc, après avoir expliqué à Anna Kubišta que, venant de Nîmes, le tchèque s'était presque imposé comme une évidence.
C'est une ville jumelée avec Prague. Et dans le lycée où j'ai étudié, il y a une vieille tradition qui date de 1920. Les personnes tchèques, les filles tchèques le désirant, peuvent passer un concours pour passer leur baccalauréat dans un lycée de Nîmes. Le concours sélectionne 4 filles tchèques qui vont étudier pendant 3 ans en France. Et j'ai eu la chance d'être dans ce lycée et de rencontrer de nombreuses tchèques et de discuter, de partager avec elles leur culture. Et j'en suis arrivé à un point où je voulais connaître un peu plus la République tchèque.
D'accord, et donc du coup, vous avez postulé pour être à l'école de langue slave d'Olomouc d'été.
En fait, c'est d'abord passé par une année d'études à ma fac de la langue tchèque, et donc j'avais seulement 2 heures de tchèque par semaine, ce qui permet pas vraiment de pouvoir parler dans la langue. Alors j'ai décidé de faire la letní škola à Olomouc.
Et alors, quelles sont vos premières impressions?
Alors déjà, la ville est très belle, on a été très bien accueillis par le personnel. C'est-à-dire qu'ils ont été très chaleureux, ils ont fait des efforts pour pas seulement parler en tchèque mais en anglais pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et en plus, l'ambiance au sein de la letní škola parmi les étudiants est vraiment incroyable, exceptionnelle. Tout le monde côtoie tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des Américains, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Germains, tous les pays sont représentés. C'est vraiment très intéressant.
Alors j'ai d'ailleurs, peut-être que vous le savez, d'ailleurs vous-même vous en êtes rendu compte, mais enfin apparemment c'est un sacré cru français cette année, parce qu'apparemment vous êtes 9.
Oui.
Et vous êtes la nationalité la plus représentée.
Oui, c'est vrai. On est d'ailleurs 3 garçons je crois, et de nombreux français sont dans les groupes les plus élevés de Tchèque. Donc moi personnellement non, je suis en lower intermediate, ce sont le milieu. La prof est incroyablement, elle est exceptionnelle quoi, elle fait beaucoup d'efforts. Elle nous fait travailler sur de nombreux documents et tout. On a aussi accès à des films, à des conférences. C'est incroyable. Les moyens mis à notre disposition sont vraiment nombreux.
Les cours se déroulent en quelle langue? Je suppose en anglais, puisque c'est la langue commune.
Et en fait, quand ça devient vraiment compliqué, c'est-à-dire des termes très précis, la prof va les expliquer en anglais. Et le livre est d'ailleurs, on travaille sur un très bon livre qui est en tchèque et en anglais.
Est-ce qu'il y a des activités, par exemple, qui sont organisées hors cours?
Il y a aussi, bon, ça paraît un peu idiot, un tournoi de football, qui est vraiment... c'est intéressant, parce que tout le monde, les filles jouent avec les garçons et tout, toutes les nationalités aussi, c'est des équipes vraiment mélangées. Et aussi, on a accès le week-end à des sorties.
À l'avenir, c'est quoi vos projets? Vous allez donc continuer vos études d'histoire? Est-ce que vous allez les lier avec le tchèque?
Voilà, je vais en fait faire un Erasmus à Prague dans 2 ans, normalement. Et après, pourquoi pas enseigner l'histoire en Tchéquie ou enseigner le français, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup la Tchéquie et j'aimerais bien y rester. Ouais. Très beau pays, j'adore la nature et tout. Et par rapport en France, les villes font... Il y a de nombreux parcs, on peut... Enfin, c'est très... Il y a beaucoup de forêts, j'adore ça, donc.
Depuis le 1er août, le Théâtre National de Brno, qui est le 2e établissement de son genre en République tchèque, a un nouveau directeur. C'est Daniel Dvořák, ancien chef du Théâtre National de Prague, qui est sorti vainqueur d'un appel à candidature et a été installé dans sa nouvelle fonction par la municipalité de Brno. Son projet de transformation radicale du Théâtre National de Brno a suscité de vives réactions. Václav Richter.
Le Théâtre National de Brno est une importante institution culturelle qui réunit 3 ensembles, l'opéra, le théâtre dramatique et le ballet. Il est difficile de gérer une telle institution avec un budget annuel de 200 millions de couronnes, quelque 7 millions d'euros. Le directeur précédent, Zdeněk Prokeš, n'y réussissait pas et le théâtre accumulait un déficit de plus en plus inquiétant. C'est pourquoi la municipalité de Brno l'a rappelé et lança un appel à candidature. Le maire de Brno, Roman Onderka, a nettement défini les attentes que la municipalité liait au nouveau directeur.
Očekávám lepší přístup k marketingu, lepší přístup k financím. Neočekávám.
J'attends de la part du nouveau directeur une meilleure approche du marketing et des finances. Je n'attends pas que le directeur demande un supplément de subvention. J'attends une augmentation du nombre des spectateurs dans les théâtres. J'espère que ce sera un directeur qui travaillera pour la ville de Brno et pour le Théâtre national.
Očekávám, že to bude ředitel, který bude pracovat pro město Brno a pro Národní divadlo.
Dans son projet, Daniel Dvořák a osé mettre en cause les structures traditionnelles de cette institution vénérable qu'est le théâtre de Brno.
Peněz není nazbyt a je tedy na místě otázka, jestli...
Il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut se poser donc la question si nous allons conserver un théâtre de trois ensembles en cherchant de nouvelles ressources financières ou si nous allons baser nos activités sur les moyens financiers qui sont à notre disposition en définissant quel meilleur théâtre nous sommes capables de créer avec ces moyens.
Jaké nejlepší divadlo jsme schopni za tyto prostředky vybudovat.
En juillet dernier, Daniel Dvořák a gagné le concours en présentant deux conceptions différentes. Celle, qui est plus radicale, prévoit la suppression de la troupe de théâtre dramatique. Une telle solution risque cependant de provoquer de vives tensions dans les milieux culturels moraves. Parmi les adversaires de cette idée, il y a aussi le doyen de la faculté de théâtre de Brno, Josef Kovalčuk.
Le Théâtre National de Brno est un grand théâtre, déjà à cause des édifices dans lesquels il joue. C'est le théâtre de grande forme, c'est-à-dire de l'opéra, mais aussi du grand répertoire dramatique et du grand ballet. Dans ce sens, il est le partenaire dans le dialogue et la discussion avec le Théâtre National de Prague.
Selon Daniel Dvořák, une éventuelle suppression de la troupe de théâtre dramatique est une décision trop importante pour qu'elle soit prise par un seul homme. À son avis, le verdict ne doit tomber qu'après une discussion avec les représentants de la ville et des gens de théâtre de Brno. Et Daniel Dvořák d'exhorter la municipalité à se presser, car si sa nouvelle conception doit être réalisée à partir de la saison 2008-2009, la décision doit être prise au plus tard en septembre 2007.
Fin de l'actualité sur les ondes de Radio Prague et place maintenant à l'économie, préparée aujourd'hui par Diane Dupré-Latour.
Économie, commerce.
Le top départ est donné depuis le début de l'année. Dans 18 mois, la République tchèque sera sous les feux des projecteurs européens, et c'est maintenant que la présidence européenne se prépare. Pour un pays touristique comme la République tchèque, l'enjeu est de taille. La vague d'appels d'offres s'apprête à déferler. Elle a déjà commencé en partie, puisque le gouvernement vient de lancer un appel à proposition pour le logo de la présidence tchèque de l'Union européenne. Toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, sont appelées à concourir d'ici le mois d'octobre. Le responsable du plan communication de la future présidence, c'est Andrzej Karsak, un ancien du Centre culturel tchèque à Berlin. Entre ses mains, la mission de véhiculer une image positive de ce pays, certes discret sur l'échiquier politique, mais dont l'ambition est de devenir le premier centre de congrès en Europe.
Součástí předsednictví je také prezentace předsednické země před evropskou a světovou veřejností.
La présentation du pays est une des tâches liées à la présidence. Devant le public mondial et européen, on veut présenter la République tchèque comme une destination touristique, comme un pays moderne, dynamique, comme une destination intéressante pour les investissements, les idées novatrices, etc. Nous avons plusieurs moyens pour construire cette image. Les événements culturels qui accompagneront la présidence, ce seront les éléments les plus visibles, car orientés vers le public. Il y a une coutume selon laquelle les grands événements culturels ont lieu au début et en fin de présidence dans la capitale, à Prague et à Bruxelles. On est en train de négocier cela avec le ministère de la Culture et avec la représentation de la République tchèque à Bruxelles. Autre activité par laquelle faire connaître la République tchèque, Internet.
Je samozřejmě webová stránka, to je hlavní komunikační nástroj.
Le calendrier des événements n'est pas encore officiellement dressé, mais on sait déjà qu'il y aura 11 conseils des ministres et plus de 140 rencontres informelles au niveau inférieur, soit presque une rencontre par jour. Sur la table des négociations, non pas le choix des thèmes, mais celui des lieux. tous les présidents de région souhaitent accueillir les événements les plus prestigieux, prévoyant bien sûr des retombées extrêmement gratifiantes au niveau touristique et financier.
Tak my si uvědomujeme, že pořádání neformálních ministerských rad a dalších zasedání je velká příležitost pro české regiony, aby se zviditelnily.
Nous réalisons que l'occasion d'organiser des rencontres ministérielles et des conseils est une grande opportunité pour la République tchèque de mieux se présenter et de se faire connaître aux médias européens. C'est pourquoi nous souhaitons organiser les deux tiers des rencontres hors de Prague. Mais ce n'est pas seulement la volonté qui compte. Il faut qu'il y ait les exigences logistiques, qu'on trouve les structures adéquates. Dans les premiers mois, l'équipe de préparation a fait plusieurs repérages en région pour voir la situation sur place, rencontrer les représentants de région, mieux situer les lieux où les conseils pourraient se tenir. Je ne veux pas être concret parce qu'aucune décision finale n'a encore été retenue, mais les deux tiers des réunions informelles se tiendront en région.
To znamená, je to všechno v průběhu, ale jak říkám, dvě třetiny neformálních ministerských rad se bude konat mimo Prahu v regionech.
Et de fait, accueillir un conseil européen, cela signifie être en mesure de fournir 30 suites pour les chefs d'État et de gouvernement, les présidents de la Commission et du Parlement, l'hébergement adéquat pour les délégations et les centaines de journalistes accrédités, et bien sûr le centre de conférence avec toutes les infrastructures d'interprétariat et de sécurité nécessaires. En France, où la phase de préparation à la présidence est déjà bien avancée, puisque cette dernière sera effective dans moins d'un an, relativement peu de lieux peuvent se targuer d'offrir de tels moyens, selon un fonctionnaire du Quai d'Orsay, cité par le journal Libération. Seuls Nice, Cannes, Biarritz et La Baule sont dans la course. Même Paris souffrirait de l'absence d'un centre de conférence international, celui de l'avenue Kléber n'étant, paraît-il, plus aux normes. Mais si présider l'Union européenne entraîne en général de juteuses retombées touristiques et commerciales, cela coûte aussi de plus en plus cher. Élargissement oblige. Chaque ministère veut organiser son quota de rencontres officielles ou informelles, qui s'ajoute aux initiatives nationales définies avec les axes prioritaires de la présidence. Pour la République tchèque, ces initiatives tourneront autour des trois axes « compétitivité, libéralisation, dérégulation ». L'Europe sans barrière, tel est le futur slogan de la présidence tchèque. L'une des premières choses qu'a faites le gouvernement tchèque est donc d'établir le budget des 18 prochains mois.
Česká vláda schválila finanční rámec českého předsednictví. Tento finanční rámec.
Le gouvernement tchèque a déjà approuvé un cadre financier pour les années 2007-2009 qui représente une augmentation des ressources financières de 1,9 milliard de couronnes et 200 millions d'ici à la fin de l'année, 700 millions l'année prochaine et le milliard restant sera investi en 2009. La création d'une nouvelle structure entraîne la création de nouveaux postes de travail, mais il faut souligner que les préparateurs ont des CDD juste pour la période de la présidence, jusqu'à la fin de l'année 2009. L'équipe représente aujourd'hui environ 25 personnes, mais cette équipe est appelée à se développer jusqu'à une quarantaine de personnes.
Les entreprises privées aussi seront invitées à répondre aux différents appels d'offres qui se succéderont cet automne pour devenir partenaires officiels de la présidence tchèque de l'Union. Et dans ce domaine, en République tchèque plus qu'ailleurs, la transparence sera de rigueur.
Je to běžné, samozřejmě sponzoringu a účasti privátních společností je.
C'est courant, mais c'est vrai qu'il faut donner certaines limites à la participation des sociétés privées. Il est courant que les entreprises privées soutiennent le transport, offrent le parc de véhicules, comme c'est le cas de la présidence actuelle, de la présidence allemande et de la Finlande, et nous poursuivrons dans cette pratique. Nous préparons les négociations, les appels d'offres. Tout le monde peut y répondre. Nous
préparons les veřejné výběrové řízení a samozřejmě všichni mohou podat své nabídky.
Le premier appel d'offres devrait concerner le parc automobile.
C'était donc Économie Commerce, préparé aujourd'hui par Diane Dupré-Latour et présenté par Alain Slivinski, qui vous invite à écouter une autre émission de Radio Prague, car celle-ci est aujourd'hui terminée.
listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kilohertz, at 9 hours on 9880 kilohertz, at 10:30 hours on 11665 kilohertz, at 13 hours on 13580 kilohertz, and at 16, 17, and 0 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kilohertz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kilohertz and at 21:30 hours on 9410 kilohertz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kilohertz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kilohertz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kilohertz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kilohertz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kilohertz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kilohertz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kilohertz and at 13 hours UTC on 17540 kilohertz. Listeners in South and East Asia